Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. Et ce soir, on va bien sûr parler de la stratégie vaccinale de la France, présentée tout à l'heure par Jean Castex. Ça va commencer très vite, hein, avant la fin du mois. On en parlera dans un instant, dans le journal, et puis avec les grandes voix. On reviendra aussi sur le compromis trouvé par les Républicains sur l'épineuse question de la désignation de leur candidat pour 2022. Ils misent sur l'émergence naturelle d'une personnalité, à défaut de quoi un système de départage sera soumis aux militants. Dans 48 heures, le coup d'envoi des vacances, mais au fait, allez-vous partir finalement? Et si oui, prendrez-vous le train? À 18h20, je serai avec le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet. Entre 19h et 20h, dans le Club des idées d'Europe 1, votre rendez-vous pour comprendre le monde qui change. On reviendra sur cette passion française pour le fait maison, boostée par le confinement écologique, économique, ludique. Les entreprises vont devoir s'adapter. Elles ont d'ailleurs déjà commencé. Mais avant cela, l'info, le journal, présenté par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
C'est la fin de quelque chose, mais j'espère aussi que c'est le début d'autre chose. Une envie d'agir citoyenne contre un danger qui tue, qui veut imposer la peur et la terreur.
Un procès pour l'histoire, des mots pour l'histoire, ceux de Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo. Le verdict vient de tomber au procès des attentats de janvier 2015.
Et les peines prononcées vont de 4 ans à la perpétuité. 30 ans de prison pour l'accusé Ali Riza Polat, récit dans ce journal.
L'exécutif a un plan contre le coronavirus, la stratégie vaccinale du gouvernement présentée au Parlement.
Et même s'il s'agit d'un débat sans vote, le Premier ministre et le ministre de la Santé vont devoir convaincre l'Assemblée et les Français surtout.
Et cela alors que le calendrier pour l'arrivée du vaccin contre le Covid s'accélère, l'Europe donnera sa réponse lundi prochain.
L'Allemagne presse pour sa mise sur le marché alors qu'elle renforce les restrictions. Longtemps cité en exemple, notre voisin menace d'être débordé par l'afflux de malades.
Le verdict au procès du meurtre de la petite Fiona, 20 ans de prison pour la mère de la fillette, 18 ans pour son beau-père.
La colère et l'inquiétude des élus du Val-de-Marne. La maire de Chevilly-Larue est visée par une série d'intimidations qui montent crescendo. Dernière en date, son fils a été agressé par un inconnu.
Le sommet du foot perd la tête. Le patron de Lille croule sous les dettes. Gérard Lopez doit vendre et partir. La Bourse de Paris a terminé en hausse ce soir, plus 0,04%.
Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
La météo, et vous nous annoncez le retour d'un temps humide pour demain.
Oui, avec le passage d'une nouvelle perturbation, légère perturbation, mais attention, c'est à l'est et au bord de la Méditerranée que les pluies seront les plus présentes. Les températures restent très douces demain pour la saison, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On a beaucoup dit que c'était un procès pour l'histoire. Eh bien, le verdict vient de tomber au procès des attentats de janvier 2015.
Oui, 3 mois d'audience, 14 accusés soupçonnés d'avoir apporté un soutien logistique au tueur. Les peines vont de 4 ans à la perpétuité. On voit ça dans un instant avec vous, Gladys Laffitte. Mais tout d'abord, une première réaction, celle de l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka.
Ce qui est peut-être plus important, c'est le message qui est délivré par la société française au travers de sa justice. C'était le procès d'une nébuleuse. Une nébuleuse de personnes plus ou moins proches des terroristes ayant fourni plus ou moins d'aide à ces terroristes. Et ce que dit cette décision, c'est que sans cette nébuleuse, il n'y a pas d'attentat. Et que toute personne qui participe à cette nébuleuse peut être sanctionnée très sévèrement. C'est la fin de quelque chose aujourd'hui, ça a été douloureux, incandescent. C'est la fin de quelque chose, mais j'espère aussi que c'est le début d'autre chose. J'ai senti, je crois, en tout cas je l'espère, une prise de conscience, un éveil, une envie d'agir citoyenne contre un danger qui tue, qui veut imposer la peur et la terreur.
On vient d'entendre donc l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka. Et on le disait, Gladys Laffitte, les peines vont de 4 ans à la réclusion criminelle à perpétuité.
Oui, 30 ans notamment de prison pour l'accusé principal de ce procès, Ali Riza Polat, contre qui avait été requis la prison à vie. Pour la Cour, il est donc coupable de complicité de crimes terroristes. Il a eu un rôle particulièrement actif et transversal dans la préparation des attentats de ce mois de janvier 2015. Autre peine lourde, 13, 18 et 20 ans de prison prononcés contre 3 hommes. La Cour a jugé qu'ils avaient apporté un soutien logistique incontestable et déterminant à Hamedi Coulibaly. Ils avaient pleinement connaissance de l'existence de son projet terroriste, même s'il n'en connaissait pas les détails. En revanche, il connaissait sa radicalisation, notamment pour deux des accusés qui l'ont connu en prison, où Hamedi Coulibaly était détenu pour des faits de terrorisme. Voilà pour les peines les plus lourdes. Pour six autres accusés, les peines vont de 4 à 8 ans de prison. Oui, ils ont apporté un soutien logistique, mais la qualification terroriste n'a pas été retenue, contrairement à ce qu'avait demandé le parquet antiterroriste, c'est-à-dire que la Cour a estimé qu'il ne connaissait pas la nature terroriste du projet d'Hamedi Coulibaly. Ont aussi été condamnés les grands absents de ce procès, présumés morts ou en fuite, la perpétuité pour le mentor religieux d'Hamedi Coulibaly et 30 ans de prison pour Hayat Boumediene, sa compagne. Voilà pour un verdict d'un procès historique. Maintenant, les accusés ont encore 10 jours pour faire appel.
Merci beaucoup Gladys Laffitte qui nous a fait vivre ce procès en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris.
Et dans Charlie Hebdo ce matin, Rhys publie cet éditorial comme une prémonition. Le cycle de la violence sera enfin refermée, au moins sur le plan pénal, car humainement, les répercussions ne s'effaceront jamais.
Europe 1, 18h04, et l'autre grand dossier du jour, bien sûr, c'est le calendrier de vaccination contre le Covid. On l'attendait, Jean Castex et Olivier Véran ont donc présenté, Christophe, la stratégie vaccinale du gouvernement.
Devant les députés de l'Assemblée nationale, débat sans vote, mais on verra un peu plus tard que les questions et les critiques ne manquent pas au sein de l'opposition.
Ça, c'est pour plus tard. On va d'abord s'intéresser à la stratégie elle-même. L'agence européenne dira lundi prochain, si elle autorise le vaccin Pfizer et BioNTech. En attendant, Anne Le Gall, il faut définir un calendrier et un mode opératoire précis.
Et Jean Castex a justement précisé le calendrier il y a quelques instants. Dans la foulée de l'autorisation de mise sur le marché et du feu vert de la Haute Autorité de Santé, les premières vaccinations pourraient avoir lieu dans les EHPAD dès la dernière semaine du mois de décembre. Cette vaccination s'étalera sur une période de 6 à 8 semaines avec un rappel du vaccin au bout de 21 jours. 1 million de personnes seront concernées par cette première vaccination qui se fera après bilan médical, après le consentement et en présence d'un médecin. Ensuite, au fur et à mesure de l'arrivée des nouveaux vaccins, la vaccination sera élargie aux personnes âgées à domicile, en commençant par les plus fragiles et les plus de 75 ans. 14 millions de personnes seront concernées par cette deuxième phase en lien avec les médecins généralistes. Chacun pourra se faire vacciner près de chez lui, a précisé Jean Castex. Concernant la sécurité du vaccin, Olivier Véran a tenu à rassurer. C'est un vaccin qui sera surveillé à la fois par l'Agence du médicament, mais aussi par l'INSERM et Santé publique France. Ce vaccin est un immense espoir. Le défi, c'est que tout se passe bien, a martelé Olivier Véran. Et pour que la stratégie fonctionne, il faut que la mobilisation soit maximale.
Anne Le Gall, tiens, on prend la direction de l'Assemblée nationale où le Premier ministre et le ministre de la Santé ont défendu cette stratégie devant les députés.
Alors on le disait, c'est un débat sans vote, mais pas sans critique forcément, celle de l'opposition bien sûr, qui dénonce régulièrement la gestion de la pandémie par le gouvernement. Claudia Bertram, les députés réclament avant tout de la clarté.
Oui, les députés, tous bords confondus, réclament de la transparence sur la méthode et le calendrier. Ils sont plusieurs aussi à réclamer de la pédagogie, on le sait. Le niveau de méfiance des Français vis-à-vis du vaccin est élevé. Et pour le député PS Gérard Leseul, c'est en partie la faute du gouvernement.
Aujourd'hui, il me semble que l'hésitation, voire la réticence vaccinale et la défiance qui se sont installées depuis plusieurs mois, trouvent majoritairement leurs racines dans la gestion brouillonne de cette crise par votre gouvernement. Les dysfonctionnements, cafouillages, approximations du printemps animent encore douloureusement les discussions familiales.
Même constat pour le député LR Philippe Gosselin qui réclame de la clarté sur l'acheminement, le déploiement ou encore le stockage des vaccins pour éviter les cafouillages qu'il y a pu avoir sur les masques ou les tests.
Sans faire de mauvais procès, je crains pour la troisième fois, excusez du peu, qu'éventuellement on ait aussi ce type de cafouillage. Faites-vous vacciner et puis qu'en réalité, il n'y ait pas au bout de telle ou telle ville et de laboratoire la possibilité de le faire, qu'on ait des ruptures de stock. Il faut arrêter de jouer les apprentis, quoi. Il faut être vraiment au taquet.
Et pour un député PS, le compte n'y est pas. Il me confiait son sentiment d'un retard de la France par rapport à d'autres nations comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Le débat se poursuit dans l'hémicycle, vous le disiez. Il ne sera pas suivi d'un vote.
Claudia Bertram en direct de l'Assemblée nationale. La France souvent montrée du doigt pour sa gestion de la crise sanitaire. Mais au-delà de nos frontières, les bons élèves aussi ont du mal.
Et oui, c'est le cas notamment de l'Allemagne. Hein. Nos voisins, effectivement, qu'on montre souvent en exemple. Mais là, eh bien, l'Allemagne est obligée de donner un nouveau tour de vis. Depuis ce matin, les écoles et les commerces non essentiels sont fermés.
Au moins jusqu'au 10 janvier, les chiffres sont catastrophiques. Plus de 27 000 nouveaux cas et 952 morts en 24 heures, record absolu. Tous les signaux sont au rouge, même les capacités hospitalières désormais sous tension, notamment en réanimation, Hélène Cole.
Oui, au dernier pointage ce matin, on atteint ce chiffre impressionnant. 80% des 30 000 lits de soins intensifs sont déjà occupés ici en Allemagne. Et plusieurs hôpitaux l'ont signalé dans la journée. Ils ont commencé à trier les patients après avoir dans un premier temps envoyé leurs malades vers d'autres villes. Désormais, les services doivent refuser d'en intuber certains, les plus âgés notamment, pour laisser la priorité à d'autres. C'est dans l'est du pays que la situation est la plus critique. Situation hors de contrôle, disent même les autorités sanitaires, avec des taux d'incidence qui ne cessent de progresser à plus de 600 à Bautzen, 700 à Görlitz, tout ça c'est en Saxe. Le virus frappe surtout dans les maisons de retraite, c'est dire si les mesures de restriction prises début novembre ont été un échec, car normalement elles auraient dû protéger les personnes les plus vulnérables, mais elles n'étaient pas assez strictes ou alors pas assez bien appliquées. Elles sont intervenues trop tard aussi, notamment à cause de la résistance des Länder qui sont aujourd'hui les plus touchés par l'épidémie, d'où ce nouveau tour de vis. Dans certaines régions en plus, il y a aussi un couvre-feu la nuit, un nouveau train de mesures bien compris par la population. 81% des Allemands estimaient la semaine dernière qu'il fallait durcir les règles.
Hélène Kohl en direct de Berlin.
18h09, c'est la suite de votre journal avec une mère sous pression, celle de Chevilly-Larue, c'est dans le Val-de-Marne. La mère de cette commune est la cible donc d'un harcèlement de plus en plus violent.
Un dernier en date, l'agression de son fils devant son domicile. L'inconnu a pris la fuite. Indignation de l'association des maires du département qui lui renouvelle son soutien. Une enquête est en cours et l'hypothèse de représailles politiques n'est pas exclue. La maison de l'élu et son véhicule avaient été dégradés il y a quelques jours.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal avec le procès Fiona, la mère de la petite fille lourdement condamnée en appel.
Et puis le LOSC, il est à vendre, mais l'acheteur n'est pas très loin, il est dans les murs.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
18h20, c'est la suite du journal de Christophe Lamar sur Europe 1 avec le verdict au procès Fiona. 20 ans pour la mère de la petite fille, un peu moins, 18 ans pour son ex-compagnon.
Et c'est pourtant lui qui a donné les coups mortels, avait expliqué l'avocat général, mais le parquet avait aussi souligné la personnalité caméléon de Cécile Bourgeon, la mère de Fiona.
Et on rappelle que le corps de l'enfant n'a jamais été retrouvé. Jean-Luc Bougeon, est-ce que ce nouveau procès devant la cour d'assises a quand même levé tous les doutes ?
Alors tous les doutes non, hein, mais pour la première fois, la responsabilité de la mère dans la mort de la fillette est établie par ce verdict. Il faut se souvenir qu'en première instance, Cécile Bourgeon n'avait été condamnée qu'à 5 ans de prison pour non-assistance à personne en danger. Cette fois, elle est clairement désignée comme la responsable de la mort de sa fille, comme celle qui a organisé les violences. Elle est donc davantage coupable encore que son ex-compagnon Berkan Makhlouf, qui lui pourtant a reconnu les coups, mais qui n'écope que de 18 ans. En tout cas, tous les deux partent ce soir en prison et ça, c'est une satisfaction pour Nicolas Chafoulet, le père biologique de Fiona.
Je suis content qu'ils retournent tous les deux en prison. Je trouve que c'est merveilleux qu'elle en prenne plus que lui. Depuis le début, je pense que c'est elle l'instigatrice. Elle tape et lui tape aussi. Ils sont deux responsables. Donc je pense que la peine est juste, ouais.
Voilà, Cécile Bourgeon qui paye sans doute aussi son attitude froide, insensible et arrogante à la barre depuis 15 jours, ce qu'a du mal à admettre son avocat, maître Renaud Portejoie.
C'est une décision que je trouve absurde. Cécile Bourgeon cristallise encore aujourd'hui tous les fantasmes. C'est la mère, c'est celle qui a menti, c'est celle qui ne retrouverait pas le corps de sa fille. Donc elle cristallise tout et on ne lui pardonne pas ce qu'elle a pu faire, on ne lui pardonne pas ce mensonge et on lui fait payer judiciairement. Sans surprise, hein, un pourvoi en cassation va être régularisé dès demain. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y aura immanquablement un cinquième procès Fiona.
Voilà, alors à voir, hein, c'est la Cour de cassation qui décidera de cela dans les prochaines semaines.
Merci Jean-Luc Bougeon qui a suivi pour nous donc ce procès à la Cour d'assises d'appel du Rhône. Le foot, Christophe, révolution chez le leader du championnat Lille est sur le point de changer d'actionnaire.
Oui, l'actuel propriétaire Gérard Lopez s'est rendu à l'évidence. Il ne peut plus assumer la gestion du club. Sa situation financière serait, dit-on, catastrophique.
Et c'est un peu l'histoire de l'emprunteur qui finit par appartenir à son créancier.
Oui, c'est un peu ça. Gérard Lopez doit revendre le club sous la pression, effectivement, d'un fonds d'investissement qui, lui, avait prêté de l'argent.
Et du coup, Cyril de la Morinerie, vous êtes avec nous. Du coup, Gérard Lopez devrait partir. Et avec lui, c'est tout l'état-major du LOSC, hein, qui pourrait céder la place.
Oui, l'état-major, c'est bien sûr Gérard Lopez, hein, qui a racheté le club il y a 4 ans, mais aussi Marc Ingla et surtout le dénicheur de talent Luis Campos. Ce trio a permis à Lille de retrouver les sommets en appliquant cette recette, recruter des joueurs à fort potentiel comme Pepe ou Osimhen et les revendre ensuite à prix d'or. Ces deux dernières années, Lille a d'ailleurs empoché 250 millions d'euros grâce au transfert. Malgré ce modèle très envié, Gérard Lopez aurait des difficultés pour rembourser sa dette. Dans un communiqué qu'Europe 1 s'est procuré, l'homme d'affaires confirme avoir reçu une offre de rachat. Un fonds d'investissement luxembourgeois s'est positionné pour reprendre le LOSC. Et c'est Olivier Létang qui a été approché pour devenir le futur président délégué. L'ancien homme fort de Rennes, qui reste injoignable ce soir, sera salarié du club. Selon une source bien informée, Olivier Létang a téléphoné à l'entraîneur Christophe Galtier et lui a assuré qu'il resterait à la tête de l'équipe. Olivier Létang a de grandes ambitions pour le LOSC. La vente officielle du club devrait intervenir dans les prochains jours.
Cyril de la Morinerie Lille qui joue à Dijon ce soir, Isabelle, c'est-à-dire dans moins d'une heure, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1.
Et on suivra ça évidemment sur Europe 1. Merci Christophe Lamarre. On vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h bien sûr pour un nouveau journal.
Europe Soir, le 18-20.